Actu SF, les podcasts.
Alors, je vais commencer introduire cette table ronde. Bonjour et bienvenue donc à cette table ronde sur la fantaisie picaresque. Donc je vais d'abord introduire les auteurs et puis voilà, on essaiera de discuter autour de cette notion dans la mesure du possible. Alors d'abord, tout de suite à ma droite, Thomas Day, donc qui est le nom d'auteur de Gilles Dumay, qui est directeur de collection aujourd'hui chez Albin Michel, rédacteur et critique pour la revue Bifrost. Et Thomas Day donc publie au Bélial et en Folio SF. Il a signé de nombreuses nouvelles réunies en recueil. Le plus récent est 7 secondes pour devenir un aigle. Et puis des romans de SF et de fantasy, entre autres, mais c'est vraiment soit subjectif, Le Trône d'Ébène, qui est là, qui a été un prix Imaginal en 2008, Dragon, récemment, ou encore celui dont on va essentiellement parler aujourd'hui, La Voix du Sabre, qui est de la fantasy japonaise. Jean-Philippe Jaworski enseigne les lettres dans la région, et après des débuts dans le jeu de rôle, ses romans nous ont fait découvrir deux mondes bien différents. Oui, il y a un roman quand même de toi. Celui du vieux royaume, avec le recueil de nouvelles Janua Vera, puis le roman Gagner la guerre, et puis Le sentiment du fer, et puis celui de tribus celtes dans la trilogie en 4 volumes, je le cite, actuellement en cours, Roi du monde, donc toujours aux moutons électriques. Léo Henry est là pour nous parler de... Montrez vos romans, de son bon gros roman, de son beau gros roman Hildegarde, qui est construit en fragments autour de la figure de la visionnaire Hildegarde de Bingen. Il l'a déjà publié notamment aux éditions La Volte, mais aussi auparavant chez L'Oxymore ou Dystopia, en particulier des nouvelles et donc des recueils entre anticipation et réalisme magique. Et notamment son roman La Panse a été récemment réédité en Folio SF et nous fait découvrir les dessous ésotériques du quartier de la Défense à Paris. Donc également conseillé. Et enfin, Adrien Thomas, donc il a reçu le prix Imaginal dès son premier roman, paru chez Mnemos, La Geste du Sixième Royaume, en 2012, auquel il a donné une suite, La Maison des Mages. Et après un one-shot percutant, dont on va pas mal parler aujourd'hui, Notre-Dame des Loups, il a entamé un nouveau cycle de fantasy qui s'appelle Le Chant des Épines, en 3 tomes. Le dernier est tout frais. Mais pas très picaresque, malheureusement pour nous. Bon, voilà, alors on va faire ce qu'on peut. Donc, il y a cette question du picaresque qu'on sait autour de laquelle on a un peu tourné, bon, essentiellement Adrien et moi, en s'interrogeant sur cette notion. Alors, le picaresque, qu'est-ce que ça évoque pour vous ?
La Picardie.
Voilà. Voilà, encore hier, il y avait pas mal de confusion entre Picard et picaresque. Alors, d'autres propositions ou...
À l'origine, picaresque, ça vient du roman picaresque, qui est un roman espagnol de la fin du XVIe siècle, qui s'est diffusé au cours des... Je vais faire mon prof de français.
C'est ça.
Donc, c'est un roman d'abord très à la mode à la Renaissance en Espagne, et puis qui va être imité un peu partout en Europe, en particulier en France, au cours du XVIIe et XVIIIe siècle. Il a tendance à présenter un personnage d'extraction sociale très modeste qui essaye de s'élever dans la société et à qui il arrive des tas de mésaventures à la fois drôles et très très cuisantes au cours de son parcours. Voilà pour résumer. Alors bon, on en parlait un instant avec Thomas, le personnage picaresque le plus célèbre. D'ailleurs, à l'issue d'un tournage picaresque en lui-même, il va y avoir enfin une adaptation cinématographique de Don Quichotte. Le tournage lui-même a été picaresque puisqu'il a traîné 20 ans, je crois, avec des tas de catastrophes. et des acteurs disparus dont le regretté Jean Rochefort. Donc bien sûr, Don Quichotte, c'est le modèle, mais on a eu d'autres personnages très célèbres, comme Gil Blas de Santillane, par exemple, hein, dans la littérature française.
Voilà. Hein. Merci beaucoup. Donc, effectivement, hein, le picaresque, c'est manigance et cou tordu. C'est un héros, des héros peu recommandables, issus du peuple, prêts à tous les coups bas pour survivre. Et donc, ils font une espèce d'inversion cruelle et parodique des valeurs sociales, morales, d'une époque, et donc ils sont vraiment prétexte à une critique et une traversée de la société. Alors, c'est pas toujours évident de voir en quoi un ouvrage de fantasy se rattache à la tradition picaresque. Donc je vais proposer à nos malheureux auteurs qui sont tombés sur ce thème un certain nombre de pistes. Donc ce que moi j'ai pu repérer dans vos œuvres qui me semblent se rattacher à la tradition picaresque, puis vous me direz un petit peu ce que vous en pensez à chaque fois. Alors, une chose que Jean-Philippe Jaworski n'a pas dite, j'en profite, c'est que le récit picaresque, c'est d'abord un type de narration. Les picaros, donc qui sont des êtres d'extraction sociale très basse, comme tu as dit, marginaux, vraiment, qui font le choix d'être voleurs, escrocs, pour voilà, se sortir de leurs conditions misérables. Et puis, ils sont malins, ils sont méchants. Ils racontent leur vie à la première personne. Et c'est la première fois dans l'histoire du roman qu'on a justement des personnages vraiment comme ça, issus des basses classes, qui vont prendre la parole, alors de manière complètement invraisemblable, parce qu'ils n'auraient pas pu raconter leur histoire comme ça. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il y a un personnage issu du peuple qui raconte à la première personne, qui dit « moi, Picaro ». Et puis aussi pas mal de femmes qui disent « moi, Picara ». Bon, mais c'est une espèce de nouveauté littéraire. Et ça, ça colle pour vos romans. Donc on a effectivement un certain nombre chez vous de narrations à la première personne, et non seulement de narrations à la première personne, mais de narrations à la première personne qui sont entrecoupées de récits enchâssés. C'est-à-dire où d'autres narrateurs prennent la parole pour raconter leurs histoires à l'intérieur de l'histoire principale. Et ça aussi, c'est une caractéristique du récit picaresque, sachez-le. Alors c'est complètement la construction de la Voix du Sabre, Thomas.
Oui et non. oui, c'est un roman écrit à la première personne. Et il y a des contes qui sont enchâssés dans le flux du roman. Après, La Voix du Sabre, globalement, c'est ce qu'on ne fait jamais en fantasy, c'est-à-dire c'est le point de vue du méchant sur une histoire, sur une quête. Et là, le méchant s'appelle Michele, qui est un jeune fils de seigneur, donc déjà, il n'est pas de basse extraction du tout. Et on va voir comment il...
Je vais y arriver.
Bon, j'en doute pas. On va voir comment ce jeune Michele, en fait, associé à un ronin... à la fois mythique et assez sale et assez mal élevé, qui est Miyamoto Musashi, va complètement foirer sa formation et va devenir plus ou moins Dark Vador. C'est à peu près ça. Donc, je me reconnais pas tellement dans Don Quichotte là, mais enfin voilà.
Non, mais dans la narration à la troisième personne, à la première personne, où effectivement c'est pourquoi avoir justement choisi de faire raconter la vie de Musashi voilà, par le point de vue du méchant, ok, mais pourquoi avoir voilà, donné la parole au méchant?
Parce que je vais redire ce que j'ai dit hier, je suis désolé aux gens qui étaient déjà là hier. Bon. Pour moi, le vrai sujet de la littérature, c'est la nature du mal. C'est le seul sujet littéraire, en fait, pour moi. La nature du mal. Pourquoi les gens bien font des choses mal, pourquoi les gens pas bien font des choses mal, etc. etc. Et ce qui m'intéresse toujours dans les œuvres littéraires, ce sont justement les gens qui tuent, les gens qui mentent, les gens qui manipulent, les gens qui font des choses à leur profit en faisant des trucs épouvantables derrière. Et je trouve qu'en fantasy, quand j'ai écrit ce livre-là il y a 20 ans, on avait toujours le bien, le mal, le héros. Alors ça a changé depuis, hein. Il y a Scott Lynch et compagnie qui sont passés par là, mais il y a 20 ans, c'était quand même globalement, on était encore sur l'heroic fantasy, avec les fils de Conan le Barbare, et puis la fantasy, le Seigneur des Anneaux, hein, la quête, la compagnie, l'entraide, etc., etc. Et moi, je voulais faire quelque chose de totalement différent. Je me sentais plus dans la continuité d'un Michael Moorcock quand il fait Elric, où il y a un anti-héros, il y a un personnage torturé, il y a quelqu'un qui veut coucher avec sa sœur, etc., etc. Ils sont des trucs délirants. Très années 70, maintenant c'est complètement dépassé. Et je voulais faire quelque chose comme ça. Et j'étais fasciné toujours, d'ailleurs, par le cinéma d'Akira Kurosawa et les samouraïs et le Shambhara et tous ces films qui sont assez formidables. Et je me dis, bon, bah, je vais inverser le truc. Le code d'honneur, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux montrer une espèce de samouraï crapule, qui est une espèce de don Juan qui couche dès qu'il peut avec n'importe qui, etc., qui se lave pas, qui mange n'importe comment, qui est sale. Et à côté de ça, qui a des espèces de... ce qui était le cas du vrai Miyamoto Musashi, qui est une espèce d'élan philosophique pointu sur certains domaines, d'un seul coup ça part sur une réflexion. Et mettre face à ce personnage-là un gamin qui doit se construire avec ce personnage, qui doit devenir un samouraï, qui doit apprendre la voie du sabre, donc l'équivalent du Bushido, quoi. Et ce gamin-là, c'est un sale con, c'est un adolescent complètement immature. Lui, ce qu'il veut, c'est percer, c'est arriver à la cour, et l'ambition l'aveugle, et quand on est aveuglé par l'ambition, bien, on devient une ordure. Et ce qui était intéressant, c'est justement d'avoir le point de vue de l'ordure. C'est l'ordure qui raconte l'histoire.
C'est aussi l'ordure qui raconte l'histoire, Jean-Philippe Jaworski dans Gagner la guerre.
Je ne peux pas dire le contraire.
Voilà. Et donc, qu'apporte pour vous ce choix de narration-là ?
Alors, moi, j'y suis arrivé un peu accidentellement à ce choix de narration à la première personne. Parce que à l'origine, Benvenuto est un personnage du recueil de nouvelles Janua Vera. Et mon ambition dans Janua Vera, c'était de varier les personnages et de varier les genres et les registres. Or, quand j'ai abordé l'archétype du truand, en fait, j'ai pas du tout pensé en termes de roman picaresque, j'ai pensé en termes de roman noir. Je me suis dit, pour raconter l'histoire d'un truand, finalement, il faut reprendre le dispositif du roman policier. Et le dispositif du roman noir le plus efficace, c'est la narration à la première personne. C'est ça qui m'a motivé dans ce choix. Voilà. C'est ça qui m'a motivé dans ce choix. Et quand ensuite, sous la pression de mes premiers lecteurs, j'ai repris le personnage de Benvenuto et j'ai écrit la suite de son histoire, j'ai repris aussi le même dispositif narratif. Ce qui est intéressant, en revanche, bien sûr, puisque là aussi on a le point de vue du méchant, pas forcément le plus méchant, mais en tout cas on a le point de vue d'un méchant. Ce qui m'intéressait en particulier dans Gagner la guerre, c'était d'essayer de charmer le lecteur. Grâce à la première personne, de faire ressentir au lecteur tout le charme du mauvais garçon, qui est attirant parce qu'en fait il a tous les défauts.
Et effectivement, avec la première personne, on est avec on est dans la pensée du personnage, on adopte complètement, et donc on s'en rapproche malgré nous.
On épouse sa subjectivité, on épouse les mauvaises raisons qu'il donne à ses mauvaises actions, et on lui trouve des excuses là où il est inexcusable.
Léo Henry, alors Hildegarde, c'est encore un autre choix de narration compliqué par rapport à ce qu'on a, encore plus compliqué, parce qu'avec donc plein de chapitres, avec des narrations à la première personne, des narrations à la première personne, et puis autant de fragments qui vont essayer de composer enfin, je ne sais pas d'ailleurs si l'objectif est de composer un portrait fragmentaire d'Hildegarde, justement. Quel est l'objectif de cette narration ? Expliquez-nous comment c'est construit et quel était l'objectif.
Alors, je vous rassure tout de suite, Hildegarde n'est pas méchante.
Non.
Ça n'est pas une crapule. Mais en même temps, elle ne raconte pas l'histoire. Moi, j'étais parti sur le picaresque. Je vous pitche Hildegarde en un mot. J'ai essayé de faire un livre sur le merveilleux médiéval sans occulter du tout la part de merveilleux chrétien. Voilà, donc c'était une interrogation que j'avais sur pourquoi, longtemps avant de commencer ce boulot, pourquoi est-ce qu'en fait la fantaisie avait enlevé de son imaginaire toute la part de merveilleux chrétien qui a perduré en fait jusqu'au 19e et assez brutalement. Alors en vrai, je me pose pas vraiment la question, je crois que j'ai la réponse, mais c'était simplement de voir ce qu'il était possible de faire à partir de ce matériau-là et de recréer ce Moyen-Âge dans lequel en fait le registre du réalisme est le merveilleux, le monde est merveilleux. Ça, c'est le projet. Et donc, Hildegarde de Bingen, donc il y a cette abbesse bénédictine, me sert de point central autour duquel je tourne pour essayer de recréer le XIIe siècle avec la matière orale qui devient écrite d'un côté, et puis de l'autre côté, l'épopée de la première croisade qui se termine à peu près au moment où Hildegarde naît. Et sur les picaresques, un mot. Moi, je pense que ce qui m'intéresse dans cette forme littéraire, dans laquelle je me suis un peu aventuré à certains endroits dans Île-de-Garde où c'était possible, c'est une question politique, qui est que la relation des personnages au monde est très différente de la relation des personnages au monde dans l'univers de la chevalerie. Le monde dans l'univers de la chevalerie, en fait, le chevalier s'inscrit dans un contexte social et si tout se passe bien, il progresse. Et puis, donc, il arrive, il commence, il est un peu ignorant, il a des enseignements au fur et à mesure de son trajet, et puis à la fin, il arrive, c'est le boss, il a compris comment ça marche et il a pris sa place dans le monde. Dans le roman picaresque, les héros sont des losers, on ne sait pas exactement comment ça va finir, mais ça se finit rarement très bien. Et surtout, la relation au monde, c'est shit happens, c'est-à-dire que. Et qui est un super motif narratif que je trouve pas tout à fait assez utilisé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer à la page suivante, parce qu'en réalité, tout peut vous tomber sur la gueule. Et ça, ça me paraît assez intéressant de faire des récits comme ça, parce que c'est exactement comme ça que je perçois la vie. Et personnellement, moi, ma vie ne ressemble pas à un roman de chevalerie, elle ressemble beaucoup plus à un truc où on ouvre une porte et bim, dans ta gueule. Et qu'est-ce que tu avais prévu de faire cette année? Eh ben non, c'est pas de bol.
Voilà. Oui, puis dans le picaresque, il y a une part de déterminisme religieux extrêmement fort. C'est un genre qui est aussi imprégné de croyances catholiques. Si le Picaro s'en prend plein la gueule comme ça, c'est parce que c'est un pêcheur.
Alors là, je suis pas d'accord du tout. Alors, ça, c'est l'aspect picaresque que je
ouais,
garde
ça,
pas.
C'est tout
moi,
à
je
fait.
Garde le côté anarchiste et le côté déterministe.
D'accord.
On peut s'en passer.
Ouais, bah, je croyais que vous repreniez des motifs religieux. Celui-là, c'est vrai qu'on l'a un peu perdu. Alors, Adrien Thomas, vous avez aussi un roman écrit aux premières personnes, avec une espèce de passage de relais, hein. Et là aussi, bon, les héros sont pas mal des crapules.
Oui, complètement. Ils sont censés avoir un rôle officiellement de chevalier blanc et de paladin qui pourchasse le mal. En vrai, c'est des enfoirés de première qui sont pas forcément beaucoup mieux, beaucoup plus éthiques, beaucoup plus moraux que ceux derrière qui ils courent, en fait. Le principe, c'est qu'ils ont chacun des histoires qui sont assez rarement des histoires très très clean, très très propres, et leur fonctionnement, c'est de faire comme si ces histoires pas très propres, eh ben, elles sont aussi sales parce que ceux d'en face ont été encore pires qu'eux, en fait. C'est une sorte d'auto-justification en reportant leur manque de bénéfices dans leur vie, le manque de bienveillance qui a eu lieu dans leur vie. C'est la faute des autres, donc du coup on va les exterminer parce que c'est pas leur faute, c'est eux. Ils ont un rôle de crapule à la fois assumé, c'est-à-dire que leur fonctionnement de base, leur philosophie de base repose sur la fin justifie les moyens. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire les actions les plus dégueulasses du monde, ce sera toujours justifié parce que s'ils le font pas, ce sera encore pire. Donc ça peut rejoindre ponctuellement le picaresque, j'imagine. De loin.
Ouais, et le dispositif narratif alors
Alors pour pas spoiler, je vais pas trop en presser parce que ceux qui connaissent le bouquin, vous savez de quoi ça cause et bon, faut pas en parler, hein. Mais d'accord. Ceux qui savent pas, le principe, c'est qu'il y a une manière très particulière de passage de parole entre chacun des chapitres. C'est-à-dire que c'est une bande de 7 veneurs, donc 7 chasseurs de loups-garous dans le Grand Ouest, Nord-Ouest plutôt, américain, qui partent à la chasse de la première reine des loups-garous, la toute première. Et ils se passent la parole d'une manière assez particulière. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui a fini de raconter sa partie, c'est le suivant qui prend le relais et les prises de parole s'enchaînent dans ce fonctionnement-là.
Et ça, il y a 7 chapitres.
Voilà.
Et un épilogue.
Voilà.
7 héros, 7 chapitres. Alors, je vais revenir sur les personnages. Là, je vous ai fait parler de vos dispositifs narratifs, même si on a vraiment déjà parlé des personnages. Moi, dans La Voix du Sabre, Thomas, c'était Musashi qui me semblait, un type de héros picaresque, effectivement, bon, il faut vraiment élargir le sens, puisque c'est quand même un chevalier, mais le côté mauvaise hygiène corporelle, le côté qui ne craint pas le ridicule, puisqu'il ne va pas hésiter à faire l'idiot devant des samouraïs beaucoup plus engoncés avant de leur couper la tête. Et puis le fait qu'ils choisissent la marginalité, l'errance, hein, qu'ils choisissent d'être 100 mètres dans cette société féodale où un tel choix est vraiment rare. Hein, le Ronin, c'est pas une figure très positive des épopées féodales japonaises. Donc voilà, on a ici, mais alors plutôt donc du côté de ce personnage qui est à la fois un personnage historique, qui est devenu légendaire, voilà, quelque chose comme une forme alors typiquement japonaise de Picaro, voilà, dans son style. Qu'est-ce que vous en pensez de cette option-là ?
Ouais, j'ai du mal. J'ai du mal, c'est-à-dire qu'en fait, le personnage de Musashi, c'est une espèce de trésor national pour les Japonais. Ils ont le livre des cinq anneaux qui a été écrit par Musashi, qui est un traité de philosophie qui est devenu une espèce de traité économique, de stratégie économique. Les gens lisent ça dans les hautes écoles de commerce, etc. etc. Et les Japonais l'appellent le saint au sabre. Et il y a eu des films, d'innombrables BD. Il apparaît dans des films fantastiques, il apparaît dans des mangas, il apparaît dans plein de trucs. Et en fait, ce qui était intéressant sur ce personnage, quand vous creusez le personnage, les faits historiques, évidemment, c'est la pierre et le sabre et la parfaite lumière de Edo, qui est un grand, grand feuilleton japonais du début du XXe siècle, qui a donné des films et qui a donné des gros livres chez Gélu qui sont assez intéressants, même s'ils sont un peu trop feuilletonnants pour moi. Mais, et quand vous creusez le personnage historique, vous apercevez que ce type-là était épouvantable. Il a tué des enfants. Il a participé aux guerres contre les catholiques. Il a crucifié des gens, etc. Il était lâche. Il a quitté plusieurs fois des champs de bataille. Il a quitté plusieurs fois des duels pour pas perdre, etc., etc. Et il a tué des gens. Il a tué peut-être une trentaine de personnes. On ne sait pas. C'est impossible à dire. Mais et donc ce type. Qui a été épouvantable pendant la plus grande partie de sa vie. D'un seul coup, il a décidé qu'il allait faire de la calligraphie et de la philosophie. Et d'un seul coup, par un espèce de miracle alchimique japonais, il est devenu le saint au sabre. C'est-à-dire que on a oublié toutes les horreurs qu'il avait fait avant. On a oublié les guerres, on a oublié les duels, on a oublié qu'il a tué un gamin de 7 ans. On a oublié tout ça. Et il est devenu Musashi, le gars qui fait des calligraphies, qui écrit des traités de philosophie, tout ça, et qui donne des cours de sabre. Et il avait une technique de sabre qui est restée célèbre. Et moi, je trouve ça inacceptable. Enfin, je trouve c'est trop facile. C'est d'un seul coup, on vous pardonne tout, on oublie tout. Cette espèce de révisionnisme individuel me paraît pas acceptable. Donc j'avais envie. Que d'un côté, il y a ce gamin qui est insupportable, comme beaucoup de gamins, j'en ai un de 13 ans, je connais, soit confronté à ce type-là qui est aussi une espèce de Don Juan japonais, mais qui a un passé extrêmement trouble, qui a fait des trucs atroces, qui aime tuer, clairement, il aime tuer, il aime même sculpter le sang avec son sabre, il fait des espèces de fresques magiques, parce que c'est un bouquin de fantasy, il y a de la magie, quoi, avec le sang qui gicle, ou avec des vagues, ou avec... Et la confrontation de ces deux personnages, qui sont pas des miroirs l'un de l'autre, mais qui réagissent l'un vis-à-vis de l'autre, avec des systèmes philosophiques, des systèmes de pensée, des systèmes moraux qui sont différents, c'était ça que je trouvais intéressant. Et j'arrive pas à lier ça à Don Quichotte, je suis désolé, ou avec le roman picaresque.
Non, ouais, c'est Don Quichotte, non, mais il y a du côté inversion de la légende, quoi, inversion de la noblesse qu'on a voulu donner à ce personnage rétrospectivement.
Bah oui, parce que c'était une crapule, et les Japonais en ont fait un saint, mais ça, c'est un truc très japonais. Ils ont toujours oublié ce qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est très très dur, même aujourd'hui, de leur rappeler toutes les horreurs qu'ils ont fait en Mandchourie et compagnie. Ils ont cette façon de penser qui est très collective, qui est que le collectif passe avant l'individu. Et le Ronin, c'est ça peut-être la vraie figure marrante du Japon, c'est que d'un seul coup, c'est une figure individuelle.
C'est le chevalier sans maître, c'est le samouraï sans maître.
Alors les samouraïs, il y a deux époques des samouraïs, alors, c'est un peu technique, mais il y a eu les samouraïs, c'était les chevaliers, les guerriers, les maîtres d'armes, ça c'est 16e, 17e siècle. Et puis après les samouraïs, c'est devenu une caste de fonctionnaires. On les appelait samouraïs, mais c'était plus des fonctionnaires que des guerriers, etc., etc. Et il y a eu un basculement de ce qu'est le samouraï. Et plein de gens refusaient d'être fonctionnaires. Et donc devenaient des ronins, et ils devenaient en fait des tueurs à gages ou des gens qui collectaient des dettes, où il y a beaucoup de jeux au Japon à cette époque-là, donc ils récupéraient dans les familles l'argent qui a été perdu au jeu, etc., ce genre de trucs. Et parce que en fait la charge de samouraï, qui était devenue une charge de fonctionnaire, ça les intéressait pas du tout. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était boire du saké, jouer, et puis si possible tuer des gens ou faire des duels, quoi.
Alors, Jean-Philippe Jaworski, bien sûr, là encore, Benvenuto Gesuppel est un espion et un assassin. Hein, c'est le, mais alors, au service d'eux, hein, c'est l'exécuteur des bases œuvres hein, du Patrice Ducatore. Et puis, on a tout le début du roman avec ces scènes d'emprisonnement, de tabassage, de pourrissement des corps. Je ne sais pas si vous les avez encore en tête. Moi, j'ai relu Gagner la guerre récemment. Et alors, ce travail sur le corps et ses souffrances, hein, ce qu'on appelle le bas corporel en théorie littéraire après Bakhtin, voilà, ça, c'est également quelque chose qui est né. Ce réalisme sensoriel, le réalisme du physique, du corps, qui est né avec le récit picaresque et que je trouve voilà, très illustré dans votre roman. Alors qu'en fantasy, ça peut sembler un peu étonnant là encore, parce que le corps, voilà, on sait bien qu'il est à peu près absent chez Tolkien, par exemple.
Alors, c'était absolument pas un choix picaresque à l'origine.
Oui, je sais, mais la table ronde est sur ce picaresque.
Mais je suis d'accord pour reconnaître. Je suis d'accord pour reconnaître que la façon dont le personnage est maltraité pendant une grande partie du roman a des points communs avec le picaresque, hein, puisqu'il est très très maltraité, Benvenuto. Hein. Ce que j'avais en tête, en fait, oui, c'était de revenir contre une représentation de la guerre propre qu'on a souvent. Alors, je suis un très grand admirateur du Seigneur des Anneaux. Et il n'empêche que, mis à part le Mordor et encore, la représentation de la guerre est héroïsée et très propre. Je voulais en donner pour son argent au lecteur, avec, même si Gagner la guerre se déroule vraiment à la fin de la guerre et après la guerre, avec une évocation d'une violence réaliste. Et dans la mesure où le roman commence vraiment après la guerre, mais qu'il y a encore quelques escarmouches, dont une escarmouche navale, et puis des tractations diplomatiques assez compliquées dans lesquelles se retrouve Benvenuto, je voulais montrer la souffrance physique, la déchéance physique, et je voulais rendre ça d'autant plus violent que je le faisais avec un personnage qui, étant le personnage narrateur, risquait d'avoir provoqué un début d'identification avec le lecteur. Certains lecteurs ont très mal vécu le passage à tabac et les suites du passage à tabac. Et là, je m'étais vraiment documenté, puisque je m'étais renseigné auprès de médecins pour avoir des renseignements précis sur les séquelles que laisse un passage à tabac extrêmement violent. Alors, ça fait partie... Oui, d'une dégradation, d'un rabaissement du personnage, parce que le personnage est rabaissé, il est rabaissé dans son orgueil, hein, et il se prend pour quelqu'un. Et au début, c'est vrai qu'il a du charme du mauvais garçon. Au bout de 100 pages, il est plus très beau. Il est rabaissé dans son orgueil aussi, parce que finalement, il a été manipulé par l'homme au service duquel il s'est engagé. Il est donc rabaissé, dégradé. Ça explique aussi en partie peut-être son humour noir, parce que c'est un humour noir, donc là aussi je le rattache un petit peu au picaresque, en ce sens que c'est un humour finalement qui va souiller un petit peu tout ce dont il traite. Il rit de la mort, il rit de la souffrance, il rit de sa propre souffrance d'ailleurs. Et donc il y a une logique de dégradation du héros, en particulier du héros auquel on peut être tenté de s'identifier, qui pourquoi pas, là oui, peut être rapproché du picaresque.
Alors, bah, de même, Léo Henry, vraiment dans le chapitre Jérusalem, on va voir la première croisade, le groupe qui se déplace autour de Pierre l'ermite, hein, à travers le destin, pour le coup, très picaresque, hein, d'un jeune garçon orphelin très jeune, hein, dont les parents succombent à ces épidémies de folie de l'ergot de seigle, hein, et puis qui va survivre dans les bois et dont on va là encore suivre les souffrances physiques au plus près.
C'est vrai, c'est absolument exact. C'est très picaresque pour le coup.
Sur le, je trouve ça super intéressant ce que dit Jean-Philippe Jaworski sur la, j'extrapole peut-être ce que tu as dit, mais sur, sur cette idée du réalisme dans le traitement de la, du rapport physique au monde, voilà, qui est effectivement un truc qui qu'on peut réinjecter dans la fantaisie. Et moi, enfin, mon idée dans la reconstitution de ce 12e siècle, la fin 11e, c'était. En fait, c'est poser une question pratique d'écrivain qui était sur comment écrire. Un temps autre, et je me suis beaucoup posé la question de savoir quelle légitimité, enfin comment dire, quelle capacité j'avais à investir ce temps. Et en fait, la solution facile que j'ai trouvée, entre guillemets, c'est de dire de mesurer tout ce qui n'a pas changé, en fait, tout ce qui est demeuré le même. Donc il y a un certain nombre d'éléments naturels. Et en fait, il y a beaucoup de choses assez profondes sur la façon dont on se relationne au monde qui on peut évoluer, on va dire. Et le rapport du corps au monde a pas changé. Enfin, je dis, on prend un coup de gourdin sur la tête, c'est le même. Voilà, c'est simplement qu'on est beaucoup plus loin chez nous, hein, et dans le contexte dans lequel on vit, on est beaucoup plus loin de la violence du monde. Donc effectivement, dans Hildegarde, il y a aussi, en particulier dans le chapitre Jérusalem, qui raconte une démarche guerrière, il y a le côté vraiment dégueulasse de ce qu'est une guerre. Mais qui est en même temps, en fait, je sais pas, j'ai essayé, c'est un petit peu délicat parce que j'ai essayé aussi d'éviter cette espèce de mythologie du Moyen-Âge crasseux où tout le monde est méchant et où tout est dégueulasse et où toutes les deux pages il se passe une horreur, parce que c'est pas comme ça que fonctionne le monde non plus, voilà. Mais typiquement sur la virée à Jérusalem, c'est assez difficile de trouver des moments vraiment pleins de. Si, au moment, ils arrivent à Byzance et c'est joli, ils trouvent ça cool. Mais après ça recommence et ils s'en prennent plein la gueule et c'est. Et puis c'est quand même. Un an et demi de massacre continue, donc ouais.
Et puis de famine, depuis Boucher, etc. Donc effectivement, c'est très réussi, c'est vraiment suffocant ce passage par les détails de sensoriel qui.
Mais après, pardon, je fais juste un rapport avec un truc qui a rien à voir avec la fantaisie et dont en plus je connais pas l'auteur.
Okay.
Merci Léo. Merci Léo. Mais pendant que je bossais sur le livre, j'ai lu un livre qui est absolument incroyable, qui s'appelle Paysage avec palmier, qui a été publié chez Tristram en souple, et qui est pas du tout de la fiction. C'est je crois que c'est le monsieur qui a fondé les éditions Verticales. C'est son unique livre qu'il a fait. Il était reporter de guerre au Liban pendant la guerre au Liban. Il a passé genre 10 ans au Liban. Et en fait, quand il était là-bas, il prenait des notes sur ce qu'il voyait. Voilà. Et c'est un des bouquins les plus stupéfiants que j'ai lus, parce qu'on lit des choses et on sait que ce qu'il décrit est exact, ce qu'il l'a vu de ses yeux, parce que ça passerait par la tête de personne, même avec l'esprit le plus tordu de la Terre, d'inventer des trucs pareils. Et du coup, j'ai essayé, en fait, dans Hildegarde, de tendre à une violence, quand c'est la violence, qui est la violence du monde. Enfin, vraiment, voilà. J'ai essayé d'écrire... Oh, je sais pas, bref. Lisez-le, soyez prudent quand même, vraiment, vraiment soyez prudent, mais lisez-le, c'est un de mes chocs littéraires les plus stupéfiants de ma vie.
Bien. Bon, il va falloir qu'on trouve l'auteur, si ceux d'entre vous qui ont des téléphones sous la main, voilà.
C'est Bernard Vallée.
Voilà, Bernard Vallée. Paysage avec palmier chez Tristram, en plus ça coûte pas cher, il est en poche, oui. Ça coûte 10 boules. Incroyable.
Bon, mais commencez par acheter les livres de nos auteurs, et puis après acheter.
Bah, nous d'abord.
Voilà. Adrien, on en a parlé. Vous n'avez pas vraiment de personnages picaresques. Éventuellement, cette jeune fille du groupe des épines.
Ouais, c'est une jeune femme qui a été élevée dans les bois, qui sous la tutelle. On n'est plus dans la Notre-Dame des Loups. Hein, prenez des notes.
Le chant des épines.
Donc le chant des épines. Donc c'est plus de la fantaisie. C'est une jeune fille qui a été, qui s'est élevée plus ou moins toute seule dans les bois, sans avoir vraiment de connaissance de ce qui lui arrivait avant, sous la tutelle d'une sorte d'esprit maléfique qui a pris à moitié possession de sa personnalité, mais qui lui laisse plus ou moins le champ libre et qui s'est réfugié dans son esprit et qui plus ou moins lui sert aussi de source de pouvoir. Donc c'est une jeune sorcière sauvage qui s'amuse dans les bois, qui se revêt de peau de loup et qui fait des blagues pas toujours très sympas aux habitants des bleds d'à côté. Sauf qu'à un moment, les habitants des bleds d'à côté, ils commencent à en avoir un peu leur claque, ils la capturent, ils menacent de la violer parce que dans les croyances du pays, ils considèrent qu'une femme qui n'est plus vierge ne peut plus pratiquer la magie. Donc ils veulent violer une gamine de 14 ans. Mais elle est sauvée au dernier moment et rapatriée jusqu'à la cour royale d'une des princesses des clans d'à côté, qui essaye d'en faire plus ou moins un atout pour sa couronne, une sorte de sorcière de garde, d'agent secret, d'espionne, de combattante, de diplomate et de voilà. Et ça se passe pas très bien parce qu'elle a pas forcément le bagage littéraire pour gérer ça, on va dire. Et en plus, il y a l'esprit dans son crâne qui s'agite et elle a jamais appris les usages de la cour et ça la gonfle au plus haut degré. Elle a qu'une envie, c'est de retourner dans les bois. Ça peut se rapprocher plus ou moins d'un personnage picaresque, c'est-à-dire de très loin, hein, de très très loin, qui a du coup effectivement la pire origine sociale possible, c'est-à-dire qu'elle a pas de maison, pas de famille, pas d'argent, rien, et elle se retrouve catapultée dans un monde dont elle connaît pas vraiment les codes et dans lesquels elle va essayer de s'en sortir. Et un peu comme dans le picaresque, à ce que j'ai compris, elle va s'en prendre quand même pas mal plein la gueule avant de s'en sortir.
Mais à part ça, c'est vrai que dans vos deux grands cycles, on est plutôt dans une veine donc qui est anti-picaresque, c'est-à-dire qui est du côté noble de la fantasy, dans une tradition épique et initiatique.
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a certains personnages qui rentrent complètement dans ce cadre-là en fait, qui sont des archétypes de personnages qui sont potentiellement héroïques ou qui sont potentiellement des enfoirés à 100%. Mais j'essaie de faire en sorte que la majeure partie des personnages soit un peu située entre les deux, c'est-à-dire que ça peut être des personnages qui sont présentés comme des gens très, très bons, très généreux, très bien, etc., qui en fait, en douce, font des coups assez pendables, et inversement, des personnages qui sont présentés comme des gens malveillants, qui haineux, ou qui ont des objectifs complètement incompatibles avec ceux des héros, ont en fait une vraie raison d'agir comme ils font, une vraie croyance, quelque chose qui les rend plus sympathiques et plus logiques à comprendre pour le lecteur en fait.
L'équivalent du code de l'honneur dans le monde d'Hildegarde, c'est la transcendance, Léo Henry, qui est vraiment qui fait contraste et qui vient constamment se surajouter à la misère des corps, parce que même Hildegarde, c'est une visionnaire, mais elle est constamment malade, elle est ravagée par ses visions. Et donc, on a voilà, la misère des vies physiques qui, comme, donne accès à un au-delà et transporte les gens, les élève au-dessus de leur condition picaresque.
Mais moi, ouais, c'est possible, peut-être. Après, moi, j'ai essayé de mettre les. Enfin, je pense. Enfin, pour moi, en tant qu'individu, et ce que j'essaie de faire dans le bouquin, c'est pas tant que la misère physique permet d'accéder au transcendant que c'est juste un continuum, c'est la même chose. Enfin, la misère physique, c'est la vie matérielle, en fait, c'est la vie physique, et la vie physique, c'est la même maintenant. Enfin, on continue à tomber malade et on continue à crever. C'est, le contexte technique et social a changé, mais sinon, c'est la même chose. Mais par contre, le transcendant à l'époque est plus que. Et plus qu'une porte de sortie, en fait, c'est la nature du réel. Et donc, du coup, cette conception même de la vie comme quelque chose de convulsif, c'est à la fois la lecture du monde et c'est leur réalité. Hildegarde, c'est aussi pour ça qu'on a mis plein de trucs verts qui poussent dessus. Hildegarde, une partie de sa théologie repose sur la notion de viriditas, avec un D, hein. Donc, qui est la verdeur. Et la verdeur, c'est vraiment cette idée du bourgeonnement. Et évidemment, le bourgeonnement, c'est à la fois une naissance, un espoir, quelque chose qui croit, mais c'est évidemment aussi, enfin, c'est le cycle de la vie dans son entier, avec la décadence, le pourrissement et la mort. Et donc, du coup, je j'ai pas l'impression, enfin, hors contexte dramatique, historique, que sont les guerres, et qui sont quand même assez fréquentes à l'époque et qui sont bien crasseuses, le rapport. Je sais pas comment dire. Je pense que c'est assez pareil. Ouais, c'est assez pareil à cette différence près. C'est-à-dire que la différence qui m'a intéressé et que j'essaie de creuser, c'est assez pareil. Pardon, le XIIe siècle et maintenant.
D'accord.
Y a pas de. La différence, c'est que je pense que le XIIe siècle était vu. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéressait en tout cas dans le XIIe siècle que j'ai fabriqué, c'est que le monde était vu à travers une histoire et que donc du coup, ça modifie légèrement le rapport au monde. C'est-à-dire que c'est pas du tout un rapport au monde positiviste et basé sur l'expérimentation et sur la science en fait. C'est un monde qui est dont l'interprétation permanente passe par le filtre de la Bible, qui est elle-même une bibliothèque de récits en fait. Et donc du coup on explique les choses font sens parce que à la fois elles sont là et on peut les observer, à la fois elles prennent leur place dans un continuum narratif au sein duquel la Bible se trouve. Et aussi, on peut y ajouter des rêves, des visions, qui sont pris au même titre, qui ont autant de pertinence en fait que l'observation scientifique. Parce que Hildegarde en a fait aussi de l'observation scientifique. Mais l'intérêt de l'analyse d'Hildegarde, c'est qu'elle elle explique tout par le triple biais de ses visions, de ce qu'elle observe et de la mythologie dans laquelle elle baigne, qui est l'interprétation du XIIe siècle du matériau biblique.
Je pense que son travail nous intéresserait beaucoup, Jean-Philippe Jaborski, parce que ça fait très directement écho au type de rapport au monde qui est déjà présenté dans Roi du Monde, alors à une époque antérieure des croyances.
Oui, c'est bon. Alors là, on s'éloigne encore que. S'éloigne beaucoup du picaresque, mais parce que là, on est vraiment dans la période héroïque.
Tout à fait. Bah, là, avec Adrien, on a un peu, on a un peu glissé.
Oui, mais bon, effectivement, hein, ce que tu dis sur ton bouquin, ça m'intéresse énormément, et en particulier sur la tentative de se glisser dans le regard et dans la perception du merveilleux d'une autre époque.
Est-ce que cette voie du sabre de Musashi, alors on a bien compris que il s'agissait justement de remettre la légende à l'envers, qu'elle n'aurait pas dû quitter, et en même temps il se met aux côtés des exploités, des vulnérables, et il essaye de mettre son d'apprendre ça à son disciple. Il reste une noblesse du personnage.
C'est évidemment un personnage complexe et pas facile à cerner, mais pour moi, j'aime bien faire ça, c'est-à-dire prendre un personnage historique. Je l'ai fait avec Musashi sur la Voie du Sabre, je l'ai fait avec Shaka Zulu sur le Trône d'Ébène, je l'ai fait avec Macbeth sur qui n'est pas un personnage historique, mais qui est un personnage de pièce de théâtre, mais qui est aussi un personnage historique, qui était le dernier roi picte d'Écosse. Je l'ai fait avec une BD que je fais avec Guillaume Sorel, qui est un dessinateur très, très talentueux. Il y a quelque chose qui me plaît dans le jeu littéraire, qui est de mélanger des tas de choses qui sont a priori immélangeables. C'est vrai, quand on regarde entre guillemets la fantasy japonaise, ce qu'ils produisent en anime, ce qu'ils produisent en manga, etc., etc. Moi, je suis assez peu client, ça me parle pas beaucoup, et j'avais justement envie d'une confrontation frontale entre des trucs qui, moi, m'intéressent en fantasy, c'est-à-dire les dragons, les créatures, la magie, que les Japonais ont, mais qu'ils ne traitent pas comme nous, occidentaux, on traite. Et aussi, j'aimais bien le côté Don Juan, qui est pas du tout un truc japonais. Et j'ai tout mélangé sur le Trône d'Ébène. J'aimais beaucoup l'idée que Shaka Zulu, quelque part, c'est un Conan africain. Et donc il y a un très beau livre de Mofolo sur Shaka Zulu, un grand livre de littérature. Mais justement, je voulais faire un livre populaire, genre je fais un Conan africain. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des sorciers, il y a de la magie, il y a des dieux qui arpentent la terre, et je raconte quand même l'histoire de Shaka Zulu. Je suis les grandes lignes. J'ai lu des tas de bouquins écrits par des explorateurs portugais ou des anglais qui sont arrivés juste après Shaka Zulu, qui ont été contemporains de Shaka Zulu. Mais je fais une œuvre de fantasy sur Macbeth. Quand j'ai lu la pièce de Macbeth assez tardivement, parce que j'étais fasciné par un monologue qui est un monologue de Lady Macbeth, où elle veut que Macbeth tienne sa promesse, c'est-à-dire qu'elle devienne reine. Et elle a un monologue atroce sur je briserai le crâne de mon enfant si tu ne tiens pas ta promesse, quoi. Et ce monologue, je trouve hallucinant. Et en fait, quand je lisais la pièce de Shakespeare, je me dis c'est dommage. Dans cette pièce, le truc qui est le plus important, le truc qui est le plus central, le truc qui est le plus fondamental, c'est Lady Macbeth. Et globalement, il n'en fait pas grand-chose. Elle a les plus beaux vers, mais elle n'est pas exploitée. Elle est très sacrifiée à son destin à lui et aux intrigues de cour, etc., etc. Donc moi, j'ai fait le scénario de BD en la remettant au centre et aussi en m'inspirant d'un film de Kurosawa qui s'appelle Le Château de l'Araignée, où justement c'est de nouveau ça, c'est-à-dire que Kurosawa, il réduit Lady Macbeth à rien du tout. C'est une pauvre femme assise qui dit deux, trois trucs à Toshiro Mifune, qui est son époux, et c'est tout. Et je me dis, mais non, c'est pas possible, vous avez rien compris. C'est le personnage de Macbeth, c'est Lady Macbeth. Et donc, voilà. Donc, j'aime bien tout ça. J'aime bien réinventer les choses. J'aime bien les expériences de xénopensée, c'est-à-dire me mettre dans la tête d'un personnage qui pense pas du tout comme moi, qui est pas de mon époque, qui a pas du tout le même parcours que moi, ou qui a pas le même code de honneur. Et je trouve que c'est ça, la littérature. C'est, donc, c'est l'origine du mal, le mal. Et c'est aussi se projeter dans des. Moi, j'adore les personnages féminins, j'ai beaucoup de personnages féminins dans mes bouquins, se projeter dans les personnages féminins, se projeter dans les ordures, se projeter dans tous ces trucs-là. Quoi.
Cette idée de xénopensée, c'est un beau mot, ça me plaît, évidemment, mais ça me fait penser aussi à une de mes obsessions personnelles, qui est aussi une des obsessions de Jean-Philippe Jaworski, qui est le jeu de rôle, qui est vraiment une façon comme ça d'imaginer et de faire vivre, quoi, des héros qui vont pas être des modèles désincarnés forcément, et du coup qui vont pouvoir aller chercher du côté de tous les instincts de l'humanité, y compris les mauvais instincts de l'humanité. Est-ce que le jeu de rôle ne peut pas être une des inspirations possibles de cette fantasy picaresque, avec notamment certains archétypes comme le voleur.
Alors si on fait un rapprochement un petit peu acrobatique et qu'on rapproche le picaresque du burlesque. Ça existe, hein, des jeux de rôle burlesques, il y en a un certain nombre, à commencer par Discworld, qui est le jeu de rôle conçu pour jouer dans le monde de Terry Pratchett, et où là, on est vivement encouragé à créer des personnages picaresques qui partent de rien, qui essayent de s'élever dans la société, qui vont rater de toute façon, qui sont des ratés en fait, hein, qui peuvent être des ratés magnifiques. Alors ça dépend vraiment de l'esprit du jeu. Est-ce qu'il y en a j'ai pas pratiqué énormément de jeux de rôle humoristiques.
Je pense que c'est l'œuvre je sais pas s'il y en a autour de Fritz Leiber, parce que Fritz Leiber c'est le oui. gars qu'on trouve quand on parle de fantasy picaresque, c'est les histoires de Fafre et le souricier gris, le cycle des épées, et ça justement avec le personnage du souricier, ce personnage du petit voleur, c'est à chaque fois à ça qu'on accole le terme picaresque. Mais Léo Henry, vous travaillez aussi dans le jeu de rôle.
Non, pas depuis longtemps, mais non, mais j'ai juste une référence quand même. Il me semble que dans les univers d'Heroic Fantasy, Warhammer, c'est quand même un univers dans lequel c'est assez difficile. C'est-à-dire que tu commences ratier et normalement tu finis en prison. Donc il y a quand même dans un univers social qui est quand même ultra violent et enfin je sais pas.
Oui, c'est vrai. C'est un système de jeu en fait où on ne choisit pas son métier, mais on tire son métier au dé. Et donc on se fait. Alors pour le joueur, ça peut être une expérience picaresque. Hein. On se représente un beau personnage de chevalier, de prêtre, de magicien. Effectivement, on commence ratier, batelier, ramasseur de crottes, et on rêve ensuite de pouvoir, au terme de scénarios qui sont souvent des scénarios éprouvants, on rêve de pouvoir s'élever dans la société. Qui fonctionne pas toujours. Donc oui, tout à fait. Warhammer peut très bien se prêter à des parties picaresques.
Adrien, vous êtes rôliste, toi ?
Alors moi, je vais me faire jeter des cailloux, mais non. J'ai commencé le jeu de rôle cette semaine, si vous voulez savoir. Pour la toute première fois de ma vie.
Il faut un début à tout.
Voilà. Et dans Donjons et Dragons, désolé, hein, j'ai que ça. Et j'ai joué un voleur, parce que du coup, quand même, ça se rapproche du picaresque, ça passe. Voilà, du coup je connais très peu le jeu de rôle, c'est Olivier Gay qui m'a initié au jeu de rôle cette semaine, et j'ai appris que la partie la plus intéressante du jeu de rôle c'était qu'on pouvait effectivement tirer des flèches dans le cul de ses propres coéquipiers, c'était assez sympa, et c'est assez picaresque aussi au final. Donc
mais ça, tout à fait, voilà, des expériences picaresques chez nos auteurs. Thomas, tu en as...
Non, je suis pas un joueur de jeu de rôle, Je suis arrivé quand c'était l'appel de Cthulhu, j'avais 13-14 ans, ça excitait beaucoup mes camarades de classe, mais en fait moi j'ai découvert qu'il y avait des bouquins de Lovecraft et qu'il y avait Clark Ashton Smith, tous ces trucs là, ça m'amusait beaucoup plus de lire des bouquins que de jouer au jeu de rôle.
Donc la xénopensée, c'est plus une projection littéraire, une projection à travers le texte,
alors Lovecraft,
qu'une incarnation du personnage.
Lire Lovecraft, c'est de la xénopensée, mais quasiment permanente. Hein. C'est, je trouve.
Des questions dans le public. Il nous reste 5 petites minutes. Hein, si vous voulez aborder d'autres points avec cette belle brochette d'auteur. peu picaresque en fin de compte. Bon, je crois qu'il est temps de l'admettre. Si, si, hein, oui. Si, on a Jean-Philippe Jaworski qui nous sauve. Pas de questions ? Oui, tout à fait, de Cédric Ferrand. Ouais. Merci. Avec des.
C'est la garde de Wasburg. A priori, on ne peut jouer que des gardoches. C'est directement tiré de son roman, hein, pour le coup. Hein. Si je me souviens du dispositif du roman, en fait, le roman est présenté par, comme toute une série de nouvelles, et à la fin, en fait, on a le fin mot de l'affaire sur le Brugmes, qui est un type monstrueux. Et en fait, dans chaque nouvelle, on suit un gardoche, c'est-à-dire un pauvre garde du guet dans une ville qui est divisée, qui, la plupart des histoires se terminent très mal ou de façon piteuse pour ces gardes. Et en ce sens, oui, c'est typiquement picaresque. Et oui, le jeu a priori propose des mécanismes pour jouer de cette façon-là, quoi.
Léo a une idée.
Non, c'est juste parce que quand vous n'avez pas de questions, j'en profite pour un deuxième conseil lecture, pour alterner avec paysage avec palmier quand même. Quand vous aurez, c'est que pour moi, si j'ai bien compris la définition du picaresque, le plus grand bouquin picaresque ever, c'est Les Mémoires de Casanova. C'est hallucinant, c'est trop bien. Alors c'est énorme par contre, donc c'est les mémoires de ma vie, c'est 18e, et donc il raconte, et semble-t-il, les casanovistes prétendent que c'est vrai, donc c'est vrai. Et entre autres, il y a la meilleure scène de fantasy du monde, qui n'est pas du tout de la fantasy, qui est son évasion des plombs de Venise. Ça fait 120 pages, c'est incroyable.
Si on parle de source d'inspiration, a priori c'est pas du tout un roman picaresque, mais moi, quand j'ai abordé le personnage de Benvenuto, que je me suis demandé comment le rendre sympathique alors que c'était une ordure, j'ai été chercher des modèles historiques et j'en ai un, alors qui est pas picaresque du tout parce que c'est un maréchal de France, maréchal de Montluc. Le texte n'est pas toujours évident à lire, ce sont ses commentaires, mais dans ses commentaires, il raconte des histoires qui sont des histoires grotesques. Vraiment grotesque. Parfois, c'est pas loin de Pratchett. J'ai en tête, en particulier, une tentative d'embuscade faite au sud de Rome par quelques gentilshommes français qui veulent surprendre un gentilhomme italien du côté impérial. Ils vont passer toute une nuit à patauger dans un marais en se demandant quand est-ce qu'il arrive au milieu des roseaux. Au matin, Montluc en a vraiment marre. Il se dit bon, allez, je vais aller voir sur la route. Il sort de ses roseaux et se retrouve devant toute l'armée impériale. Et là, on a vraiment une scène historique qui est typiquement picaresque à mon sens.
Oui, moi je dis le picaresque est partout. Et ce sera le mot de la fin. Et je vous invite à retrouver nos auteurs non picaresques sur leur stand pour acheter leur livre plus ou moins picaresque. Merci beaucoup. Merci aux auteurs. Merci au public.